Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute du Grain à Moudre d'été. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. 2016, année pourrie. Déjà mal en point, les agriculteurs français sont sortis exsangues des crises qui ont touché successivement la production céréalière, le prix de la viande bovine et le prix du lait. Il est donc urgent de repenser la chaîne alimentaire où les petits restent à la merci des gros. C'est l'ambition affichée des états généraux de l'alimentation qui seront lancés demain. Les acteurs de la production, de la transformation et de la distribution discuteront dans un premier temps des enjeux économiques pour déboucher sur des premiers résultats en septembre, puis dans un second temps, et à l'automne, ils aborderont les questions sociétales et environnementales. Malgré ce programme, certains craignent que les états généraux, qui avaient d'abord été annoncés de manière plus ambitieuse comme un Grenelle de l'alimentation, n'accouchent de propositions au rabais. Qu'ils se concentrent exclusivement sur la question du juste prix des denrées alimentaires, au détriment par exemple de la réflexion sur leur qualité. Le prix, une question essentielle mais non suffisante pour tous ceux qui espèrent une refondation en profondeur du modèle agricole français. Alimentation, avons-nous les mêmes valeurs? On en parle ce soir dans Du Grain à Moudre d'été, à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr. Et pour parler et avoir autour de la table des gens qui sont à chaque bout de la chaîne alimentaire, nous avons convié Stéphanie Pajot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique. Vous êtes aussi membre du Conseil économique, social et environnemental. À côté de vous, Michel-Édouard Leclerc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le PDG du groupe Leclerc, donc un distributeur évidemment, et un gros distributeur des denrées alimentaires sur notre territoire. Et enfin, Thierry Pouge, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le chef du service des études économiques de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à Paris. Vous êtes aussi chercheur associé au laboratoire Regard de l'Université de Reims, donc en Champagne. Ardennes, voilà. Donc on a trois interlocuteurs, trois acteurs finalement de cette chaîne qui va de la production à la distribution. Il y a un constat selon lequel les agriculteurs ne parviennent plus à vivre de leur travail. C'est un constat qu'on fait depuis un certain temps et qui est un peu le point de départ, en tout cas l'électrochoc de ces rencontres organisées à partir de demain. Ça dépend évidemment des filières. On a beaucoup parlé du lait et de la viande ces derniers temps. Comment on est arrivé là? Qui est responsable véritablement de cette situation? Est-ce qu'il faut incriminer Thierry Pouche, la mondialisation, l'Europe, l'État français, l'industrie agroalimentaire, je sais pas, les acteurs de la distribution, les agriculteurs eux-mêmes?
Bah, il y a peut-être une multiplicité de facteurs qui sont intervenus dans la détérioration de la situation économique des agriculteurs. Il est clair que l'évolution de la politique agricole commune depuis les années 90 n'a vraiment pas facilité les choses, puisqu'on était rentré depuis les années 60 dans une forme d'encadrement des marchés qui permettait aux agriculteurs d'avoir un revenu suffisant pour couvrir leurs coûts de production et vivre dignement, comme on dit aujourd'hui, même si les prix de marché étaient finalement assez bas. Donc il y avait une sorte de compensation de la différence avec les mécanismes de la politique agricole commune. Et puis on a vu justement, avec le processus de mondialisation, des réformes de la politique agricole commune qui ont de moins en moins été tournées vers la couverture des aléas de marché pour les agriculteurs. Et alors l'exemple type, puisque vous avez parlé du secteur laitier, c'est vraiment la sortie des quotas laitiers. Ce système d'encadrement, de régulation, d'économie administrée en quelque sorte, a précipité d'une certaine façon par des jeux d'anticipation d'ailleurs des grands producteurs des bassins du nord de l'Europe, une montée de la production qui s'est heurtée à un ralentissement de la demande mondiale. Donc du coup il y a eu des déséquilibres importants sur les marchés qui ont conduit à une crise importante où le prix a complètement dégringolé. Il y avait déjà eu une première phase en 2009 avec la récession mondiale, et là depuis 3 ans quand même on est rentré dans une phase aiguë de baisse des prix qui va à compte de ce qu'on avait pu dire il y a quelques années, de hausse tendancielle des prix agricoles à l'horizon 2025-2030. Là, on est plutôt dans un processus inverse. Donc du coup, ces états généraux de l'alimentation s'inscrivent dans un état de crise qui dure depuis 3 ans, principalement sur les secteurs de l'élevage, mais au gré des aléas climatiques comme l'année dernière, aussi des productions végétales maintenant.
Michel-Édouard Leclerc, vous avez, avec le groupe Leclerc, évidemment, vous êtes, comme je le disais, au bout de la chaîne, et notamment, vous êtes, c'est pas vous qui fixez les prix, évidemment, mais vous pouvez quand même décider, par exemple, vous êtes prêts à rehausser le prix d'achat du lait. Est-ce que c'est par ce biais du prix qu'il faut aborder cette question du modèle agricole français?
Là, on a fait un geste politique, social face à la crise en prenant une initiative, je dirais, hors marché. Et notamment sur nos laits de distributeurs, la marque Repair, on écoule quand même 200 millions de litres au rythme annuel. Donc on a essayé de montrer à la fois qu'on a entendu le message et puis en même temps d'essayer d'initier un dialogue qui produise justement à travers ces assises une autre forme de contractualisation, de régulation. Mais moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Thierry, et au risque de vous surprendre, je pense que le libéralisme économique aujourd'hui n'est pas de mise. On a arrêté des formes d'encadrement, on a arrêté des formes de politique agricole commune, peut-être qu'elles étaient trop coûteuses, certainement d'ailleurs, mal réparties, etc. Mais on n'a pas repensé une nouvelle logique. Et pour moi, les assises de l'alimentation pourraient être l'occasion, pour peu qu'on ne fasse pas une fixation sur le problème de la responsabilité où les égaux là, feront qu'on ne trouvera pas un consensus, mais de travailler sur un projet qui nous tire vers le haut et qui fasse sens auprès de l'ensemble des Français. Et d'ailleurs, je pense que si on se met d'accord sur un projet France de l'alimentation, outre que ce serait bon pour l'image de marque de nos produits à l'exportation, on pourrait y trouver aussi de nouvelles matières à rémunération pour nos agriculteurs.
Oui, c'est à dessein, vous l'avez compris, que j'ai commencé sur cette question de la responsabilité, parce que c'est souvent la première qui est abordée. On se renvoie les responsabilités aux uns et aux autres, et ça empêche souvent d'aller peut-être au bout des choses et de trouver un consensus, ce qui est l'objectif, encore une fois, de ces assises. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, Stéphanie Pajot, au nom, évidemment, de la Fédération nationale de l'agriculture biologique? Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, que cette question de la marge, cette question du coût, cette question du prix est une bonne façon de rentrer dans la problématique?
Bah en tout cas, elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire pour nous, effectivement, ce débat, ces états généraux doivent avant tout être une réflexion globale sur la réorientation du modèle agricole et alimentaire français vers plus de qualité, plus de proximité, plus d'équité. Et évidemment, on met l'agriculture biologique comme locomotive de cette transformation.
L'agriculture biologique peut vraiment avoir ce rôle-là. Est-ce que vous pourriez nous dire sur quelle tendance est l'agriculture biologique aujourd'hui par rapport à l'agriculture, on va dire, je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs, traditionnelle, conventionnelle?
Ben, disons qu'aujourd'hui, effectivement, on sent qu'il y a une vraie demande sociétale vers l'agriculture biologique. Il y a une croissance de plus de 20% par an du marché. Et puis donc, il y a eu des vagues de conversion très importantes en 2015-2016. Et on espère qu'elles vont se poursuivre en 2017 et les années suivantes. On est aujourd'hui à peine 6% de la surface agricole en France. Donc, on considère qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire pour faire de la France le premier pays bio d'Europe. C'est un projet politique ambitieux qu'on avait essayé de faire partager aux candidats à la présidentielle.
Thierry Pouche, sur ce rôle de l'agriculture biologique comme moteur de la transformation agricole française?
C'est sûr qu'il y a une demande qui émane de la société au regard de tous les épisodes de crise sanitaire, d'inquiétude vis-à-vis de ce que les consommateurs absorbent au quotidien. Il y a un vrai besoin de sécurité alimentaire au sens qualitatif du terme. Mais vous voyez bien que du coup, ces états généraux de l'alimentation vont rentrer dans une forme de schizophrénie, parce que il y a une demande qui émane de la part des consommateurs. D'après les enquêtes d'opinion, ils sont même prêts à payer un peu plus cher leur alimentation pour avoir un peu plus de qualité, même ce qui n'enlève rien au fait qu'on est quand même encore dans un contexte de crise qui pose des problèmes de pouvoir d'achat qui stagnent notamment. Et on sait très bien que la consommation alimentaire provoque, et aussi le reflet des inégalités sociales. Et en même temps, l'Union européenne non seulement démantèle sa politique agricole commune, mais négocie des accords de libre-échange qui vont ouvrir le marché intérieur à des produits lointains, dont on va ignorer un peu les modes de fabrication, même s'il y a des engagements, notamment avec le Canada, notamment. Mais là, il y a quand même un vrai problème, parce que il y a un besoin de proximité, et en même temps, on va ouvrir un marché à des produits qui vont venir de très loin, avec en plus l'alourdissement des problèmes environnementaux que ça peut représenter. Les transports maritimes qui vont amener ces produits agricoles vont certainement émettre des gaz à effet de serre. Donc, vous voyez bien que l'idée de ces états généraux de l'alimentation, il y a un côté quand même assez flou. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment envie de poser la question de savoir ce qu'on veut faire de notre agriculture et de notre alimentation dans le 21e siècle ?
Alors on va revenir notamment à cette question du prix qui est centrale, puisque finalement c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, on l'a compris, on va s'intéresser au prix et peut-être qu'on va évacuer un petit peu la question du modèle agricole. Mais j'aimerais vous entendre, Michel-Édouard Leclerc, sur cette question du bio, puisqu'on a vu récemment, enfin depuis quelques années maintenant, les grands distributeurs créer leur propre marque, se tourner parfois, et c'est le cas chez Leclerc, sur des circuits courts, aller se fournir dans la région où se trouvent les supermarché. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, qu'il y a une demande et que surtout les consommateurs, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, sont vraiment prêts? Ils disent dans les enquêtes d'opinion qu'ils sont prêts à payer plus cher, mais est-ce que ça se retrouve dans le caddie des uns et des autres?
Oui. Après, il n'y a pas une réponse et il n'y a pas une demande. Et donc, déjà, on est devant une crise d'un modèle qui a été trop au bout de l'hyper-productivisme. On l'a vu dans ma propre région, dans l'Ouest, avec avec l'image export d'une agriculture bon marché, mais de mauvaise qualité. Enfin, les crises qu'il y a eu chez Tilly, chez Doux, dans la volaille et tout ça. On voit que le modèle a été jusqu'au bout. Quand vous écoutez aussi même aujourd'hui des belles marques de charcuterie comme Fleury Michon ou des marques de laiterie comme Danone, écoutez leur PDG, ils disent eux-mêmes qu'ils sont arrivés au bout d'un système marketing limité. Le mass market doit faire aujourd'hui, enfin je sais pas si le mot est abusif, mais son coming out par rapport à la politique industrialiste, vous voyez. Donc en fait, on est à un moment important, intéressant, de cette prise de conscience. La crise de la vache folle, les contrefaçons, le horse gate, ça, on évidemment sensibilisé les consommateurs. Donc c'est une vraie opportunité. Donc le bio est une réponse, mais on peut pas tout transformer l'agriculture française en bio. Faudrait pas faire non plus du bio au rabais, au sens technique, et Stéphanie le dirait mieux que moi. Donc en fait, moi je plaide déjà pour l'abandon d'un modèle trop standardisé, trop banalisé, et la possibilité d'offrir une agriculture plus diversifiée. Alors, j'ai un modèle, moi. Je suis le plus âgé autour de cette table. Moi, j'ai vécu la crise du vin il y a 30 ans. Aujourd'hui, ça ne choque personne dans un magasin d'avoir pléthore de segmentation de vins, des vins de pays, des vins AOC, des vins de domaine, etc. Et en plus, vous voyez, c'est un marché qui est mondialisé. Et grâce à ce travail qui a été fait sur la qualité, les signes de qualité, etc., c'est un marché qui résiste assez bien, malgré les crises dans le Sud-Ouest aujourd'hui. C'est un marché qui résiste assez bien à l'internationalisation, vous voyez. Donc, il y a une réflexion à mener ensemble, négoces, transformateurs, agriculteurs, pour faire une agriculture plus diversifiée. Mais probablement aussi, l'État ne peut pas se contenter d'être l'arbitre de cette discussion. Il faut aussi qu'il s'engage sur un cadre, et notamment au niveau international et au niveau européen. Il faut du temps pour reformater le nouveau modèle.
Cette question que vous soulevez, Michel-Édouard Leclerc, qu'on pourrait appeler la question des labels, c'est la question de la confiance aussi qu'on peut accorder à ces dits labels. Et notamment, il y a un article dans Le Monde diplomatique, c'était en juin dernier, quand le bio dénature le bio, c'est Claire Lecoeuvre qui l'a écrit, et qui s'interroge justement sur l'extension du modèle du bio. Est-ce que, selon vous, Stéphanie Pageot, le bio doit rester à une petite échelle, peut-être plus grande que celle d'aujourd'hui, mais doit quand même rester à une petite échelle pour ne pas se dénaturer et perdre cette confiance peut-être des consommateurs?
Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, nous on considère qu'il faut développer l'agriculture biologique parce que au-delà d'un simple marché, il y a quand même des enjeux environnementaux et sociaux qui sont de nature à favoriser le développement de l'agriculture biologique en France. Je crois que la protection de l'eau, du sol, de la biodiversité, la santé des agriculteurs, agricultrices, la santé des consommateurs, je crois que c'est des enjeux qui dépassent simplement le simple marché, effectivement, même s'il est segmenté. Donc, Nous, on considère qu'il faut développer l'agriculture biologique en France, effectivement, mais il faut pas la développer à n'importe quel prix. En tout cas, on veut effectivement porter un certain nombre de valeurs qui sont au-delà d'un cahier des charges, effectivement, une structuration de filière qui respecte notamment le commerce équitable et la transparence dans la structuration des filières jusqu'au consommateur. Et en fait, c'est ça le futur défi de l'agriculture biologique, le changement d'échelle sans perdre ses valeurs. Et je crois qu'on a des exemples qui commencent à se structurer en France sur le commerce équitable, notamment avec un concurrent de Michel-Édouard Leclerc, Système U, qui travaille en partenariat, en contrat tripartite avec des producteurs de porc ou de lait. Et il y a aussi évidemment l'enseigne Biocoop qui travaille sur ce sujet. Mais je pense qu'en fait, c'est pour nous, c'est vraiment là l'enjeu demain, c'est effectivement une agriculture biologique qui crée des relations commerciales équitables tout au long de la filière, et les relations équitables en nord-nord finalement, puisqu'on parle souvent du commerce équitable nord-sud, mais en nord-nord ça veut dire prise en compte des coûts de production, ça veut dire contractualisation sur le long terme, ça veut dire partenariat avec des organisations économiques de producteurs bio, ça veut dire investissement des chaînes de distribution dans le développement agricole, enfin voilà, tout ça, c'est à construire.
Alors, on a cité beaucoup de marques, on en a cité tellement que c'est même plus de la publicité. Je signale à nos auditeurs quand même qu'on n'a pas l'habitude d'en entendre autant sur cette antenne. Mais voilà, c'est quand on parle agriculture, agroalimentaire, il faut aussi citer les exemples qui existent. Thierry Pouche, on est peut-être allé un petit peu vite, mais c'était important de faire ce premier tour de table et notamment de poser cette question peut-être très précise du bio, parce qu'elle est éclairante, notamment sur la possibilité de faire évoluer le modèle agricole français. Mais alors, c'est quoi ce modèle agricole français qui est à bout de souffle aujourd'hui? On a une représentation qui alterne souvent, qui oscille entre la ferme des 1000 vaches et l'exploitation familiale, entre l'agriculteur chef d'entreprise et le bobo néo-rural qui produit exclusivement du bio.
Je suis assez gêné par cette histoire de modèle agricole conjugué au singulier. Parce que quand on regarde quand même l'agriculture répartie sur tout le territoire français, on est quand même en face d'une extraordinaire diversité. Alors c'est vrai qu'il y a, depuis l'après-deuxième guerre mondiale et surtout depuis la création de l'Europe et de la politique agricole commune, c'est vrai qu'il y a eu un engagement dans un modèle qu'on appelle, à mon avis, abusivement productiviste, parce que dans productivisme, il y a quand même productivité, et productivité, c'est pas forcément une mauvaise chose en économie. Je préférais l'appeler plutôt productionniste, c'est-à-dire qu'on a produit effectivement énormément, ça a coûté parfois très cher au budget européen, ce qui, aux yeux de la Commission, a justifié un certain nombre de réformes. Mais je crois qu'il y a quand même une agriculture française qui est extrêmement diversifiée. Et du coup, quand on compare ça avec l'Allemagne, on ressent la même gêne. C'est-à-dire qu'on compare l'efficacité du modèle allemand depuis la réunification, en oubliant que c'est un modèle qui est aussi extrêmement diversifié. Les élevages porcins du nord-ouest de l'Allemagne, c'est pas du tout la même chose que ce qui se passe en Bavière. Donc on a une juxtaposition de modèles, et est-ce qu'on peut en sortir un qui finalement va se substituer à celui...
Est-ce que c'est souhaitable ?
Je crois que les enjeux sont, à mon avis, ailleurs. C'est vrai qu'il y a toute une reconfiguration à mener sur ce modèle agricole pour satisfaire une multiplicité de demandes. Une demande de proximité, mais en même temps, les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient qui sont très dépendants de l'extérieur pour leur approvisionnement alimentaire, comment vous faites ? Vous dites on laisse le marché alors qu'on a quand même des productions céréalières qui répondent à leurs besoins. Donc voyez qu'il faut essayer de conjuguer tout ça. Et je crois que dans cette problématique, il faut aussi ne pas oublier, à mon avis c'est aussi peut-être le cœur des états généraux de l'alimentation, comment on va restructurer les filières et leur organisation, comment on va faire en sorte que les relations économiques et commerciales, les rapports de force, parce que quand même il y a des rapports de force entre les maillons de la filière, comment est-ce qu'on va apaiser, rééquilibrer ces rapports de force, parce que l'agriculture a perdu de la valeur ajoutée, ne serait-ce que l'année dernière on est en recul de moins 8,5%. 0,4%. Sur 100 euros de valeur ajoutée agricole, la production elle-même ne représente aujourd'hui que 6,2 euros contre 11 euros en 1999. Donc où est passée cette valeur ajoutée? Et la question du prix, puisque cette valeur ajoutée est évaluée en monnaie, justement, en prix, elle est aussi décisive. Et il y a là, du coup, non seulement une question sur le modèle qui s'essouffle, comment on va faire pour restructurer ces filières, mais il y a des exemples aussi, des sources d'inspiration à l'extérieur qui peuvent être très intéressantes à regarder et à appliquer en France.
Michel-Édouard Leclerc, sur le ministère de l'Agriculture, on peut lire « Le monde agricole doit se transformer, le monde de la distribution l'accompagner ». Mais comme vient de le dire Thierry Pouche, il y a quand même un rapport de force qui s'engage entre ces deux mondes. Quelle peut être, est-ce que c'est pas une façon un peu irénique de voir les choses? Quelle peut être la façon dont la distribution et le monde agricole travaillent main dans la main pour restaurer, par exemple, cette valeur, ces marges pour les agriculteurs?
Mais déjà, quand vous exposez déjà ce problème, c'est un stéréotype, parce qu'on ne le vit pas comme ça. Dans un centre Leclerc, je vends du lait, mais je l'achète pas à la ferme, je l'achète pas au producteur. Je l'achète à Danone, je l'achète à Lactalis. Quand j'achète des fruits et légumes, j'ai pas de centrale d'achat nationale. C'est chacun des membres de la coopérative, des coopératives régionales des centres Leclerc qui achètent sur des marchés différents. Certains à Nantes ont des maraîchers à côté, d'autres à Paris sont obligés de passer par Rungis ou par des filières. Comme l'a dit Thierry tout à l'heure, il n'y a pas un modèle, d'accord? Il n'y a pas un modèle de production et il n'y a pas un modèle de distribution. Donc, en fait, la première question, déjà, c'est de savoir si on discute entre nous, entre Français, ou si on discute entre Européens, ou on discute, comme l'a dit Thierry, sur un marché international. Aujourd'hui, sur le marché du lait, par exemple, on a fait un effort sur le prix du lait là, avec la marque Repère, mais si les Néo-Zélandais veulent casser le prix de la poudre de lait, si les Chinois n'achètent pas la caséine de lait, ou si le marché russe est fermé pour le marché du porc, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, la bonne initiative locale, elle est laminée sur un marché qui est devenu mondial. Donc, première chose, vous parliez de responsabilité. Si chacun fait un bout de chemin pour aller vers l'autre, déjà, le politique doit dire la dimension du marché. Le politique, c'est nous aussi en tant que citoyens. Hein. Je fais pas de l'anti-élitisme, hein. Mais quand même, la solution est politique. Est-ce qu'on défend un privilège, une exception agricole, comme on a su défendre une exception culturelle? Est-ce qu'on en fait un partage avec les Européens? C'est une première question. Et ça, si on n'y répond pas, tout le reste, déjà, c'est à volo. Hein. Ensuite, est-ce que le produit agricole lui-même dégage suffisamment de valeur ajoutée pour être aussi concurrencé que le marché du parfum, le marché de l'automobile ou autre? Moi, j'ai une théorie. J'ai une théorie, c'est que de dire que les marchés de matières brutes non transformées doivent être cartélisées. Vous voyez, j'ai rien d'un ultralibéral dans le monde entier. Parce que la valeur ajoutée est très dure à sortir en production de matières brutes, les pétroliers se sont organisés en OPEP. Tous les marchés de matières premières sont plus ou moins réglementés, régimentés, même fût-ce par un acteur privé. Et même le marché du diamant, hein, c'est la Debers qui fait les mises en marché. Bon, déjà, première chose, est-ce qu'on ouvre à tout vent à la concurrence
Ce qui est la situation aujourd'hui ?
Dans l'agriculture française, on est sorti d'un encadrement, par exemple, la fin des quotas laitiers. Il y a des gens qui ont, à la FNSEA, dans les groupements de producteurs, même dans certaines coopératives, ils ont dit, on va le relever le défi, on va tacler les Irlandais, on va tacler les Hollandais, on sera les meilleurs, etc. Ouais, d'accord. Les meilleurs seront les meilleurs parmi les meilleurs. Mais il y a une casse sociale derrière tout ça. Donc, à un moment donné, puisque le problème est aussi politique, et qu'il n'est pas que économique, eh bien, il faut faire une réponse politique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut que les producteurs aussi, à l'occasion de ces assises, disent qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme exploitation et qu'est-ce qu'ils considèrent comme compatible. Il y a peut-être des discussions à avoir entre eux sur les modalités, sur les solidarités interprofessionnelles. Elles n'existent pas beaucoup dans ce secteur, vous voyez. Et après, nous, distributeurs, s'il faut nous tenser, c'est justement pour accompagner le modèle qui sera choisi ou le modèle qui sera exprimé par les producteurs. Vous voyez? Et donc, moi, je trouve qu'on a mis, pardon pour le jeu de mots, la charrue avant les bœufs. Avant de parler
du prix, etc. Ce qui est une urgence peut-être en gestion de crise. Alors faisons-le en gestion de crise. Mais si on parle du modèle alimentaire français, il faut d'abord dire le niveau qualitatif, le type de diversité qu'on veut défendre en France. Et après, on mobilise l'ensemble des acteurs sur cet objectif-là, y compris en termes de rémunération, de contraintes, de labels, d'obligations sanitaires et sécuritaires.
Stéphanie Pageau, vous êtes d'accord sur ce manque de solidarité entre les agriculteurs et quel accompagnement vous pouvez
Une première réaction, c'est qu'en fait, c'est pas qu'aux agriculteurs et agricultrices de décider en fait du modèle alimentaire français. Il me semble que les citoyens ont leur mot à dire. L'alimentation, ça appartient aux 65 millions de citoyens et donc je pense que la place de la société civile dans ces états généraux est essentielle. Il me semble qu'ils ont...
Assurée, selon vous, cette place? Alors, c'est vrai que ça reste assez flou, la façon dont va se dérouler.
Oui, mais a priori, était inquiet. Apparemment, la société civile commence... a priori, va être invitée, y compris dans les premiers débats. Je pense que c'est essentiel, en fait. On a toujours considéré que l'alimentation était gérée par des professionnels, et c'était les agriculteurs et les filières. En fait, non. Il me semble que le citoyen a son mot à dire, il se prend en charge. On voit des exemples concrets au travers de la création des AMAP, l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, des collectifs de consommateurs, voire des magasins de distribution participatifs. Donc je pense que eux aussi, ils ont leur mot à dire et ils ont une nouvelle économie à construire et ils sont prêts. Ils sont prêts, ces citoyens. Il faut simplement leur donner des conditions politiques d'y arriver. Et donc, effectivement, après, il faut que nous, en tant que professionnels, qu'agriculteurs, on prenne conscience qu'au-delà d'une alimentation, au-delà d'un produit de qualité, on a aussi un rôle dans le façonnage des paysages, dans la protection de l'eau, et que ça concerne tout le monde. Donc il faut vraiment qu'on change notre paradigme.
Alors justement, puisque vous parlez de la société civile et de la responsabilité des agriculteurs, il y a un mot que vous avez prononcé déjà, il me semble que c'était vous, Stéphanie Pageau, et qui est au cœur aussi du discours du président Emmanuel Macron, qui nous parle là aussi pour l'agriculture de contractualisation, qui dit qu'il faut mettre plus de transparence et éviter que les marges ne soient captées par un tel ou un tel. J'aimerais comprendre ce que ça veut dire exactement, Thierry Pouche, est-ce que vous pouvez nous éclairer qu'est-ce que ça veut dire mettre plus de transparence exactement? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire?
Quand vous établissez un contrat entre des acteurs, entre un fournisseur d'une matière première et un industriel ou éventuellement un distributeur, vous vous mettez d'accord sur la durée du contrat, sur la livraison, sur le mode de livraison, sur le prix, sur la clause de sauvegarde, etc., etc. Sauf que dans un contrat, il y a des asymétries d'informations qui peuvent surgir, c'est-à-dire que par le jeu d'informations économiques que l'un détient et que l'autre ne détient pas, vous pouvez confisquer d'une certaine façon la valeur ajoutée qui va surgir de l'activité économique. Donc plus de transparence, ça voudrait dire que tous les acteurs ne dissimulent pas des informations qu'ils pourraient posséder en matière économique et que ça soit clair. Et du coup, qu'il y ait aussi une sorte d'arbitrage.
Mais qu'est-ce qui peut l'assurer, ça, alors?
Ça peut être...
Il faut se remettre à la bonne volonté des acteurs ou il peut y avoir une autorité?
Ça peut être la bonne volonté des acteurs. Ça se passe... Prenez l'exemple de Friesland Campina aux Pays-Bas. C'est une grosse coopérative qui absorbe 80% de la collecte et qui fixe un prix avec ses agriculteurs qui sont membres de cette coopérative aussi. Mais lorsque Friesland Campina dégage un profit, une marge suffisamment importante, au-delà des bonus qui peuvent être versés en fonction de la qualité du lait, eh bien Friesland Campina s'engage à augmenter le prix à partir du bonus de la marge qu'elle a pu dégager de son activité économique. Donc ça peut être aussi une façon de procéder, c'est-à-dire qu'il y ait des clauses dans le contrat qui disent voilà, celui qui collecte, celui qui transforme, celui qui distribue rétrocède une partie de la valeur ajoutée en fonction de ses propres résultats. Ça peut être ça. Après, il peut y avoir aussi l'intervention d'acteurs juridiques pour surveiller ça, ou d'acteurs publics qui peuvent dire, eh bien, quand le prix tombe trop bas, évidemment, eh bien, il y a des mécanismes correcteurs, contracycliques qui peuvent intervenir, et du coup, une rétrocession de la valeur ajoutée qui peut remédier à la situation de fragilisation de trésorerie des agriculteurs.
Michel-Édouard Leclerc, on a compris que vous étiez loin d'être opposé, même plutôt favorable à ce type d'encadrement. Je peux vous interroger sur une autre possibilité.
Non, c'est aussi... ça marche, ça, tant qu'on connaît les acteurs sur un marché. Mmh. Mais si vous ouvrez le marché à tout vent, vous avez beau vous mettre d'accord entre un producteur qui fournit Sodial et Sodial qui a contracté avec Leclerc ou avec Carrefour ou avec Système U, si un acteur tiers arrive et durablement vient péter le marché, l'accord, même contractuel et même tripartite, il tiendra pas longtemps, vous voyez. Donc c'est ça, je trouvais que quand même c'est intéressant dans le débat qu'on a eu, on a dit, il y a le citoyen en tant qu'expression politique qui doit dire le type d'alimentation, mais quand même, les institutions doivent à un moment donné dire sur quel marché on parle, et après on doit être responsable sur son marché. Ce que vient de dire Thierry, moi j'adhère complètement, il n'y a aucun problème. Le problème c'est que le marché est pété sans arrêt.
Oui, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une solution qui serait de voir les fournisseurs qui sont très éclatés se réunir aussi en coopérative? Vous avez parlé de cette coopérative.
Mais ils le sont, attendez.
Il y a des organisations de producteurs.
Ah ouais, ouais. Mais d'abord, par exemple, nous, sur les marchés agroalimentaires, on n'a que 3 ou 4 fournisseurs qui font 80% du marché. Je ne cherche pas à plaider, l'un est plus déséquilibré. Mais les marchés sont des rapports de force, de toute façon. Petit ou gros, ou entre gros, etc. Et le premier vecteur de la concurrence, il n'est pas entre le producteur et le distributeur, il est entre les industriels entre eux et les producteurs entre eux. C'est que le concurrent du producteur de porc de ma région, là, au Finistère, c'est pas Carrefour ou c'est pas Leclerc, c'est le producteur allemand, c'est le producteur belge, c'est le producteur hollandais. Donc déjà, pareil, par rapport à la dimension qu'on disait tout à l'heure, ben déjà, il faudrait que le syndicalisme agricole ou les interprofessions agricoles, elles s'européanisent. Si on travaille sur le marché européen, il faudrait qu'il y ait des standards européens, une harmonisation européenne plus forte. Le veulent-ils ? Le peuvent-ils ?
France Culture, du grain à moudre, Raphaël Bourgois.
Avec cette question ce soir, alimentation, avons-nous les mêmes valeurs? Voilà, on parle évidemment des assises de l'alimentation qui vont commencer à partir de demain et pour quelques mois à venir. On en discute avec Michel-Édouard Leclerc, qu'on vient d'entendre, le PDG du groupe Leclerc, Stéphanie Pajot, qui est présidente de la Fédération nationale de l'agriculture biologique, et Thierry Pouche, économiste et chef du service des études économiques de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à Paris. Stéphanie Pajot, je me tourne vers vous. On l'a dit, il y a une jungle, en quelque sorte, avec des gros acteurs. Comment est-ce que vous, justement, vous vous y retrouvez pour faire valoir votre voix dans ce qui vient d'être décrit successivement par Thierry Pouche et par Michel-Édouard Leclerc?
Ben, je crois qu'en fait, on a essayé de sortir du marché mondialisé, tout simplement, et je crois que c'est un enjeu fort pour les agricultrices et les agriculteurs demain. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur un marché plus relocalisé, avec une partie en circuit court, on va dire, avec de la vente directe. Je crois que c'est quelque chose qu'aspirent les citoyens. Et puis, pardon, une partie en circuit long, parce qu'évidemment, il faut quand même alimenter les villes, mais sur des schémas de relocalisation des filières, c'est-à-dire en gros bio et local, c'est l'idéal, c'est-à-dire créer des schémas de partenariat à l'échelle territoriale où finalement les acteurs, le territoire et les producteurs se parlent et en véritable projet alimentaire, en fait. On vise beaucoup ce travail. On espère que ce sera aussi dans les états généraux de l'alimentation. Parce que on voit bien que la course à l'agrandissement, le rapport de force permanent, on est toujours en train d'essayer de grossir et d'avaler l'autre et que ça ne résout absolument pas le problème. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse un peu plus territorialement.
Ah, justement, c'est une vraie tension là qui émerge entre vous tous. Mais en tout cas, je note le slogan, hein, bio et local, c'est idéal. Félicitations,
oui,
c'est bien trouvé.
Sauf qu'il y a quand même une difficulté. On peut être d'accord avec ça, d'autant plus que ça répond à une demande de la société. Mais en même temps, vous avez de grosses structures dans le monde entier. Vous prenez le cas de l'Argentine, par exemple, qui développe des productions d'agriculture biologique, qui occupe une surface de plus en plus grandissante et qui exporte. Donc, le fait d'associer l'agriculture biologique à des petites structures, probablement que ça répond à un besoin. Mais en même temps, avec la mondialisation qui, pour l'instant, n'est pas complètement stoppé, on a quand même des pays qui se sont mis, avec des grandes structures de production, à faire du bio, et ils vont exporter avec parfois des coûts de production qui seront inférieurs par le biais de la main-d'œuvre ou par le biais du taux de change, et puis qui
vont avec les mêmes critères de bio que ceux qu'on a ici.
Les mêmes critères de production. Donc là aussi, il va falloir peut-être mettre un peu les choses à plat là-dessus. L'agriculture biologique est une des conditions possibles pour faire évoluer le système agricole, ça personne ne le nie. Mais il y a aussi après toutes les autres modes de fabrication, les indications géographiques. Vous avez une structure comme celle du comté qui fonctionne particulièrement bien et c'est historique, avec des prix payés aux producteurs qui sont particulièrement élevés. Donc est-ce qu'on peut généraliser ce type de fabrication, ce type de structuration de la filière? Il faut essayer de voir en fonction des acteurs qui sont...
Elle est territorialisée,
mais le comté est aussi un fromage qui est exporté du coup. Donc c'est pas uniquement réservé à des consommateurs du département, de la région ou de l'Hexagone. Parce que là aussi, il y a un vrai problème. Quand je disais, il faut qu'on réfléchisse à quel type d'agriculture, vers quel type d'agriculture on veut aller, et c'est une question qui n'est pas seulement posé aux autorités nationales, mais aussi à l'Union européenne. Il faut quand même qu'elle fasse le bilan de ces réformes de la politique agricole commune, parce que du coup, à force de livrer l'agriculture au marché, comme le disait Michel-Édouard Leclerc, quand vous avez la Nouvelle-Zélande qui intervient sur le marché de la poudre de lait, elle peut faire un peu la pluie et le beau temps. Il faut quand même s'interroger là-dessus. Il faut qu'elle fasse le bilan de la politique agricole commune. Cette mondialisation a entraîné un certain nombre d'acteurs vers le low cost, vers des coûts les plus bas possibles. Et il faut sortir de cette obsession du coût le plus bas possible pour essayer d'imaginer un modèle où il y aurait un peu plus de qualité et de prix au-dessus de celui qui est pratiqué sur le marché.
Mais justement, puisque l'Europe est un acteur important, Michel-Édouard Leclerc, vous l'avez rappelé tout à l'heure, est-ce qu'il ne faudrait pas, notamment, quel est votre sentiment là-dessus, que l'Europe change sa façon peut-être d'attribuer les aides. C'est-à-dire ne plus le faire en fonction, par exemple, de la taille des exploitations, mais de le faire en fonction du nombre d'intrants chimiques qui sont utilisés pour telle ou telle agriculture.
Ça fait partie des chantiers, je trouve, qui devraient, dans la transparence, on parle du partage de la valeur ou de la répartition de la valeur. Il a été mis sur l'agriculture française quelques 100 milliards de subventions en 10 ans. C'est beaucoup d'argent. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas revoir les critères de... Je ne suis pas contre, hein, moi, quitte à payer des impôts, je veux bien qu'ils soient bien utilisés sur une production nationale de qualité. Mais par contre, voilà, quels critères? Qu'est-ce qu'on soutient? Est-ce qu'on soutient à tout prix le quantitatif et l'export? Ou est-ce que on soutient le local, l'aménagement du territoire, la participation, justement, la montée en qualité?
Donc
ça, c'est des débats. Il faut les avoir ensemble. D'ailleurs, je pense que la solution, elle sortira pas du chapeau en 3 mois. Mais si on veut bien créer un consensus sur ces projets-là, je pense que ce serait nouveau. Si Macron arrive à faire ça, parce que c'est peut-être quelqu'un aussi à qui on n'attribue pas ce savoir-faire immédiat, un homme de la ville, etc. C'est peut-être lui qui va nous obliger à... Moi, je suis... En tout cas, j'y vais de manière très constructive et très participative. Mais on voit bien que les oppositions... Bah, ça fait 40 ans que je viens à la radio parler de l'opposition distribution-production. Et c'était pas les mêmes rapports de force, pourtant, vous voyez. Mais c'était les mêmes questions. Donc, si on veut sortir de ça, il faut arriver à créer un consensus. Je pense que c'est mûr, vous voyez. J'insiste là-dessus, sur on oppose prix et qualité. Dans nos foires au vin, dans les rayons vin, quelle que soit l'enseigne, chez les cavistes, hein, on trouve du vin à 6 euros et du vin à 100 euros. L'un chasse pas l'autre, vous voyez. Et au fond, bien sûr, il faut tenir compte du pouvoir d'achat, mais il y a aussi le consommateur, il demande pas qu'on tranche pour lui, il veut avoir le choix. Donc il y a place pour une offre diversifiée, il y a place pour une offre. Mais par contre, il faut justement, ce qui a été fait sur la viticulture française en 30 ans. Il faut le faire aussi sur la viande, la revalorisation des races à viande, les types de production. Et vous voyez toutes ces contraintes écologiques ou sanitaires, moins d'antibiotiques, moins de pesticides, etc. Je ne suis pas jusqu'au boutiste, hein, je dis pas du tout, je dis moins d'eux, etc. Ben, ça peut devenir des labels, ça peut devenir des critères, ça peut devenir entre le bio et le conventionnel, ça peut devenir des voies de
une
progrès.
Palette, par mais exemple, oui, mais oui, de labels.
Mais oui, parce que tout le monde a... Enfin, attendez, une élection ne fait pas 10% de pouvoir d'achat en plus en France. Hein, faut pas oublier que le salaire moyen des Français, c'est autour de 1 500 euros. Le bio, c'est plus cher, ça coûte plus cher. L'agriculture raisonnée, ça nécessite aussi une rémunération plus élevée. Mais ce dont on va discuter demain, c'est aussi l'augmentation du prix à nourriture identique, à mode de production identique. Et c'est là où il y a une ambiguïté, vous voyez. Donc je pense qu'il faut dissocier ce qu'est la gestion de crise dans l'immédiat. Et puis la construction
donc, la question
d'un
du
modèle
prix et la construction d'un modèle.
Ouais. Voilà.
Et ben justement, Stéphanie Pajot, j'ai failli vous interrompre, Michel Doraclair, j'ai bien fait de pas le faire parce que vous êtes allé au bout de votre raisonnement et c'était très intéressant. Mais la question que je voulais poser et qui me paraît apparaître à l'issue de cette conversation, on est presque au bout, c'est cette tension qui existe et qui a été soulignée par les uns et les autres entre le très local et le mondialisé. Et donc, qu'est-ce que vous attendez, vous, par exemple, des assises de demain? Quelle défense du territoire, du local, pour pouvoir avoir cette agriculture biologique que vous appelez de vos souhaits et que vous défendez, Stéphanie Pajot?
Disons que c'est effectivement, il faut mettre tout le monde autour de la table et en plus de l'État, je pense qu'il faut mettre les collectivités territoriales. Tout le monde a un jour un rôle à jouer et demain, les nouvelles communes auront un rôle dans la politique alimentaire de leur territoire. Donc je pense qu'il faut aussi envisager de mettre tout le monde autour de la table. Après, je pense qu'effectivement, il faut qu'on avance sur la politique agricole commune, même si j'ai l'impression de rester très locale dans mon discours. Je suis bien consciente qu'il y a une politique générale à avoir et nous, on défend la mise en place de services environnementaux et sociaux au sein de la politique agricole commune. C'est-à-dire que, voilà, on arrête de payer les agriculteurs par hectare, mais sur un engagement, sur des services environnementaux sociaux. Ça, c'est de l'impôt des citoyens qui sert concrètement à l'intérêt général et ça change tout. Et puis après, je pense que malgré tout, les acteurs économiques ont un rôle à jouer. Ils sont les distributeurs comme les transformateurs sont prescripteurs, c'est-à-dire que eux aussi, dans leur contrat, ils ont un rôle à jouer sur je tiens compte de des contraintes de la production bio. Et non pas je vous impose un schéma de je dirais par exemple pour les carottes, est-ce que c'est l'industriel qui va imposer aux producteurs de produire des carottes d'une certaine longueur, etc., alors qu'en agriculture biologique on utilise justement des variétés diversifiées qui n'ont pas forcément la taille qui va rentrer dans l'industrie agroalimentaire. Et donc l'enjeu, il est là aussi, c'est de se reparler entre les différents maillons de la filière et comprendre les contraintes des uns et des autres pour avancer ensemble.
Thierry Pouche, la concertation.
Oui, et puis je voudrais juste rebondir aussi sur la mobilisation des collectivités territoriales. C'est déjà un peu enclenché, notamment avec les programmes alimentaires territoriaux. L'idée de développer dans des restaurations collectives, par exemple, des proximités entre fournisseurs et consommateurs, les écoles, les maisons de retraite, etc. C'est déjà un peu enclenché, donc je pense que là, il faut prendre appui sur ce qui a déjà été animé, enclenché depuis quelque temps, pour justement essayer de généraliser ça, d'étendre ça, et puis répondre aux besoins de la population. Mais effectivement, il y a une espèce de cercle un peu vicieux qui s'est engagé. Est-ce qu'on parle d'abord du prix avant de savoir ce qu'on va faire, ou est-ce qu'on fixe un objectif avec des acteurs qui vont des producteurs aux transformateurs, aux distributeurs et aux consommateurs, et ensuite on verra la question du prix. Il n'en reste pas moins que le prix reste important pour développer des investissements et des innovations.
Un dernier mot, Michel-Édouard Leclerc.
Bon, je voudrais surtout pas conclure, mais en tout cas, sachez
que c'est malgré tout à vous que ça va revenir, puisqu'il est 18h58.
Bon, en tout cas, moi, je dis à titre personnel et pour l'enseigne que je représente, on est prêt à s'investir, à s'autocritiquer. Entendez bien ce mot. On a conscience à la fois d'arriver au bout d'un modèle. Après, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. On a nourri la France, le système actuel a nourri la France et a fait gagner des devises par les exportations. Donc il faut le faire évoluer. Faisons-le ensemble. Si on tire assez haut, je pense que tous les consommateurs nous suivront et ça permettra, fort de la confiance dans chaque marque, dans chaque enseigne au système de production, de mieux rémunérer le producteur. J'y crois sincèrement.
Eh bien, un peu d'optimisme, ça fait du bien. On n'a pas souvent l'occasion dans cette émission. Voilà, on termine sur cette note. Merci Michel-Édouard Leclerc, Stéphanie Pajot et Thierry Pouche d'avoir participé au Grain à Moudre d'été ce soir. Une émission qui a été préparée par Pierre Testard, Daphné Abgral, Camille Ferré, Cédric Fuentes et Juliette Monti. À la réalisation, c'était Anne Despelchin et à la prise de son, Alex Dang.